With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hello les légendes, on a invité Jules Marie sur la chaîne pour débriefer ses stats avec notre expert du circuit Fabs Barreau, qui avait analysé le jeu du français pour l'un de ses clients. Fab offre des pistes de travail à Jules pour aller grappiller de précieux pourcentages dans son jeu. Et si vous voulez mieux connaître votre propre style de jeu grâce à la stat, on a mis en place un quiz qui prend 3 minutes en lien dans la description. Vous recevrez des infos précieuses sur vos forces et vos faiblesses pour optimiser votre jeu. C'est gratuit et méga utile. Foncez. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui c'est ou ça reste secret?
Oui, bah, je peux le dire maintenant. C'était Vachek Pospisil à Mouiran le Captif.
Très bien. Jules, déjà, est-ce que tu peux nous dire si tu récupères tes stats, si c'est un truc qui t'intéresse, quel est ton point de vue sur ce sujet-là?
Moi, je récupère pas les stats. Par contre, je les regarde à chaque fin de match, en fait, hein, sur l'application ATP. Voilà, on peut avoir les stats, service, ace, double faute, pourcentage, etc. Plein de trucs. Je trouve ça super intéressant, ouais, pour savoir un peu la tendance du match, comparaison par rapport aux autres matchs. Mais c'est vrai que je prends pas le temps de les récupérer pour analyser vraiment en détail. En revanche, c'est vrai que je regarde à chaque fin de match, quoi.
Et ce qui te fait tiquer le plus, ça va être quoi? Les fautes directes, évidemment, les balles de break non converties. Enfin, où est-ce que tu vas mettre le plus d'attention?
Non, c'est le pourcentage de premier service en fonction, bien sûr, du match. C'est-à-dire que si j'ai fait plein de premières secondes, ce que je suis capable de faire pendant un match, ou si j'ai envoyé du bois tout le match, savoir combien j'ai passé de première balle, ça c'est important. Bon, il n'y a pas les kilomètres heure, ça c'est dommage. Les balles de break aussi converties, ça c'est important. Et combien je gagne de points aussi derrière ma première, derrière ma seconde. Ça je regarde pas mal aussi.
Bon Fab, on va attaquer d'emblée. Qu'est-ce que tu as récupéré? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu de Jules?
Alors, c'est ce que j'avais récupéré avant le match et j'ai rajouté aussi le match contre Pospisil dans le même bilan.
Ça a dû diminuer, ça a dû diminuer un peu le bilan.
Non, après j'augmente, j'ai des stratégies aussi pour arriver. L'idée, c'est que le bilan, il y a eu 50% des points gagnés, 50% des points perdus. Donc, c'est vraiment pour faire des moyennes. Alors, une fois de plus, je mets une parenthèse. Je n'ai pas analysé tous les matchs, tous tes matchs cette année. Donc, il va y avoir un certain degré, je pense, d'imprécision sur certaines stats. Mais vu que je pars sur des stats générales de profil, je pense que ton style de jeu par rapport aux stats que je vais ressortir est assez juste parce que c'est ce que j'avais déjà vu. Donc, moi, je fais toujours un comparatif entre le joueur et ses adversaires. Donc, j'avais à peu près 7 adversaires de Jules pour cette comparatif. Et je regarde par rapport au nombre de points et de fautes de chaque coup, où c'est que Jules est meilleur et moins bon que ses adversaires. Et c'est là que je fais les profiling. Chaque fois, je fais comme ça avec les autres que je fais du profiling, quoi. Donc, par rapport à ça, voilà ce qui est ressorti. Donc, Jules, sur les stats que j'avais, fait en moyenne 3 fois moins. Donc, c'est quelqu'un qui est plus solide que ses adversaires avec tous les coups possibles. Donc, il fait moins de fautes directes avec les 5 coups possibles. Donc, j'ai sur la stats que j'avais, 3 fois moins de fautes directes avec le service, donc de double faute. 3 fois moins de fautes directes en retour, en coup droit, 30% de fautes directes en moins en revers et aussi 3 fois moins de fautes directes à la volée que ses adversaires. Donc, c'est vraiment quelqu'un, un joueur ultra solide. Et donc, ça, c'était le premier point, la première force, quelqu'un qui fait donc ultra solide, ultra consistant. Et deux, cet avantage, on peut vraiment le voir dans les rallyes de plus de 5 frappes. Donc, quand le rallye se prolonge, c'est là que Jules est le plus fort en gagnant 54% de ses points. Donc là, pour vraiment résumer très, 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 très globalement, voilà les deux forces expliquées. Et ça nous emmène vers un jeu que j'appelle un contreur. Et les contreurs, c'est des joueurs intelligents qui optimisent complètement leur force, leur potentiel. Et je pense que c'est exactement ça aussi que tu parles beaucoup sur ton blog. Et ouais, qui optimisent parfaitement les armes qu'ils ont. Et ça, c'est typiquement le profil de Jules qu'on voit à travers la stats. Donc voilà, brièvement. Okay. Après, on peut rebondir, mais je vous laisse maintenant.
Tu as dit que c'était contreur. Et est-ce qu'il y a une petite variante en complément où on est full contreur?
Dans le complément, il y a un petit peu de tout. Il y a des services gagnants. Après, on n'en parlera peut-être pas autant que d'autres contreurs. Il y a des accélérations en coup droit, mais c'est surtout le contreur, il a toujours ce double avantage aussi en revers. C'est-à-dire que le revers, tu sais aussi, il fait souvent plus de points en revers que ses adversaires. Et on a aussi cette tendance chez Jules. C'est-à-dire que le contreur, il a toujours ce moment où il peut accélérer, et c'est plus souvent en revers dans le comparatif qu'on va voir la différence. C'est-à-dire, du coup, il y a une surprise le long de la ligne, un revers le long de la ligne, un amorti, des coups spéciaux. Et ça, c'est aussi une des spécialités du contreur. Donc, oui, il y a un complément. Le contreur, ce n'est pas que je remets la balle en jeu. Il accélère aussi de temps en temps. Mais en moyenne, c'est quand même en faisant moins de fautes qu'il prend son plus grand avantage. Et avec ce double avantage en revers, en faisant plus de points, légèrement plus de points.
Verdict, Jules, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te positionnes là-dessus?
Alors, je savais bien sûr que j'avais un profil bien sûr de défenseur contreur, mais c'est intéressant par contre de savoir que je vais quand même 3 fois moins de fautes que mes adversaires dans les 5 coups possibles au tennis. Ça, je trouve ça dingue.
Au-delà dans les échanges au-delà de 5 frappes.
Ça... Non, en général. Non.
Ah d'accord, pardon.
Et ouais. Ça, et dans les échanges au-delà de 5 frappes, c'est quoi le truc? C'est
que tu gagnes 54% des points.
Ok, d'accord.
J'ai juste pour mettre 54% des points en relief, sur une saison, Djokovic gagne 54% des points. Donc, quand on gagne 54% des points dans une catégorie, ça veut dire qu'on est top 10 easy. C'est-à-dire que dans les rallyes de plus de 5 frappes, son niveau de jeu, ton niveau de jeu, par rapport à ta moyenne, c'est vraiment là que… Par exemple, on prend Albot, Nishioka, ces joueurs, ces contreurs… Il gagne en règle générale 54% des points des rallyes de plus de 5 frappes. Schwartzmann aussi était dans ces eaux-là, avec une très très grande frappe, très très fort en plus 5.
Donc non, je m'attendais bien sûr à ce type de profil, c'est évident. Après, c'est vrai que là, on rentre en détail avec des stats, donc c'est bien aussi de savoir. Et finalement, quand je vais aller sur le court, tu vois, quand je vais atteindre la 3e, 4e, 5e frappe, bah, je sais finalement que j'ai plus de chances de gagner le point. Donc, du coup, j'ai encore plus tenir ou encore essayer de faire encore plus bouger le gars. Donc, c'est bien aussi de savoir ça. Mais ouais, je savais bien sûr mon profil de joueur. Et voilà. Après, ça veut bien sûr indirectement aussi dire que je prends un peu moins de risques, que je suis un peu moins dangereux, que je tente un peu moins. Et ce sont les axes de travail aussi que j'essaie de faire évoluer dans mon jeu.
Et sur le côté créer de la surprise avec le revers, j'ai l'impression que tu fais quand même plus le jeu avec le coup droit. Qu'est-ce que tu en penses?
Un peu comme tous les joueurs qui ont un revers à deux mains, c'est qu'effectivement, on fait un peu plus de fautes en coup droit parce qu'on fait un peu plus le jeu. On a une meilleure main, on trouve de meilleurs angles. Et en revers, on est un peu plus solide, contreur. Je pense, je ne sais pas... Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est ça quand même.
Le truc, c'est que tu vois, Max, il y a toujours… Moi, je fais le comparatif avec les adversaires. C'est que Jules fait quand même en moyenne beaucoup plus de points en coup droit que revers. Ouais. C'est deux fois plus. Mais par rapport… le tennis, en règle générale, les joueurs font plus de points en coup droit que revers. Donc, mais quand tu mets dans le comparatif avec l'adversaire, il fait quand même plus de points en revers que ses adversaires. Sans pouvoir donc faire plus de points en coup droit. Parce que vous voyez le truc, des fois, ça se mélange. C'est que, voilà, un coup droit est par définition meilleur qu'un revers dans le tennis, c'est souvent le cas. Ouais. Mais dans le comparatif, être meilleur que ses adversaires en revers.
Est-ce que tu sais si je fais plus de fautes en coup droit ou en revers?
Du pareil au même. Là, sur le bilan que j'ai eu de toi, le ratio de fautes en coup droit était très très bas. Très 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 bas.
Ça veut dire que mon coup droit est meilleur, non? Je fais plus de points avec et je fais autant de fautes?
C'est difficile à dire. En tout cas, dans le bilan que j'ai, le coup droit était meilleur que le revers. Par contre, j'ai envie de dire que peut-être si j'avais eu un échantillon un peu plus grand, avec d'autres types de joueurs en face,
bien sûr.
Peut-être ça aurait... Parce que moi, comme ça, de base, je dirais que le revers est meilleur parce que le contreur, en moyenne, son revers est meilleur que ses adversaires.
Là où Jules a tiqué, c'est quand tu as donné la stat de... voilà, tu gagnes 54% des points au-delà des rallyes de 5 frappes. Donc, ça équivaut à une stat de top 10. C'est quoi la contrepartie? Ça veut dire que quand Jules joue contre un gros punch, enfin un gars en cadence qui est en service plus 1, à quoi descend son pourcentage? Quelle est la valeur sur laquelle il peut se baser pour se dire « Ok, là-dessus, il faut absolument que j'aille chercher. »
Je vais te donner une information qui va rejoindre le 54%. C'est que, donc, il gagne 54% des points de plus de 5 frappes, mais que 36% de la totalité de ses rallyes sont joués en plus de 5 frappes.
Ouais.
Et par contre, le 36% par rapport à l'ATP, c'est au-dessus. Donc, il joue plus, voire beaucoup plus de rallyes de plus de 5 frappes, mais ça reste 36%. Donc, clairement, les joueurs qui vont l'embêter, puis en plus, on a un très bon exemple parce que Pospisil était un type de joueur puissant en service plus 1. Et c'est là, c'est dans le service plus 1 que les joueurs peuvent prendre un avantage sur Jules. Après, quand les rallyes commencent de plus de 5 frappes, non. Mais le tennis est quand même un sport qui est plus dans des filières courtes que longues. Ça, c'est la réalité.
Dans le top 100, c'est quoi la stat des filières T'as dit que Jules, c'était 36%, mais dans le top 100, c'est combien?
Ah non, il est dans la moyenne. Non, je me suis trompé. J'ai dit 36. 36, c'est dans la... En fait, 36, c'est dans la moyenne. Il ne joue pas plus... Non, là, je me suis trompé. Il ne joue pas plus de longs rallyes de plus de 5 frappes. Donc, c'est la moyenne. Si tu veux, 64% des rallyes dans le top 100, 64% sont entre 1 et 4 frappes et 36% sont plus de 5 frappes. Et Jules est exactement dans ses moyennes.
OK.
Mais tu vois, quand même, c'est quasi deux fois plus de rallyes qui se terminent en moins de 5 frappes. Très, 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 très bon en plus de 5.
C'est super intéressant, je trouve, franchement.
Et globalement, Jules, est-ce que tu as l'impression que plus tu joues à niveau élevé, plus les mecs sont en service plus sain, te rentrent dans la tronche et c'est difficile à gérer? J'ai l'impression que sur les premiers matchs de ta saison, tu avais quand même le contrôle sur le jeu et plus tu avances en tchal, plus tu montes en niveau, plus ça va vite. Enfin, comment tu ressens tout ça, quoi?
Ouais, non, des fois en futur, je joue des mecs qui tapent très très fort aussi, hein, franchement, qui font service plus sain, quoi. Ça dépend vraiment du profil de joueur, j'ai l'impression. Franchement, tu peux avoir un joueur top 100 qui joue l'échange, qui est tactique, qui frappe fort, mais sans te faire des winners tout le temps. Tu sens que tu vas prendre un winner à chaque fois qu'il peut armer, tu vois. Par exemple, un Maestrelli que j'ai joué justement en Vasek Pospisil, qui est 160, il me semble. Bon, bah, effectivement, lui, il sert à 220, mais je lui ai mis 600 en premier set.
Ouais.
Et c'est un joueur qui frappe très fort du fond, mais j'arrive bien à lire sa balle, donc du coup j'étais souvent sur la trajectoire de balle, donc finalement il a pas mis beaucoup non plus de winner, il me semble, et il y avait beaucoup de rallye, alors que c'est un joueur qui sert à 220 et qui frappe fort du fond. Il y a tellement de paramètres en jeu, savoir si tu lis bien où va la balle, je sais pas, plein de trucs. Donc, j'ai pas l'impression qu'arriver en challenger ça soit plus rapide, plus fort, ou que ça soit service plus 1, quoi.
D'accord.
J'ai pas l'impression.
Mais ça dépend aussi peut-être de la surface. Peut-être les challengers en indoor, il y aura plus, évidemment, plus de joueurs qui vont être très forts dans des filières courtes. Mais après, des challengers sur terre battue, on va rencontrer aussi des catégories de joueurs plus défensifs. Parce que c'est souvent les spécialistes de terre battue, c'est pas des serveurs volleyeurs. Je veux dire, c'est quand même des joueurs qui tiennent la balle, qui mettent du lift, de la rotation, tout ça.
Est-ce que ça va être un point important de ta prog sur 2023, Jules?
Pas de jouer sur des surfaces plus lentes?
Ouais, d'aller peut-être chercher de la terre externe et d'aller...
Non, bah je pense que...
D'aller limer pendant trois...
Non, bah je pense que tu me contrediras, mais je pense qu'un contreur... Alors moi c'est mon avis, mais je sais pas par rapport aux stats, mais je pense qu'un contreur est meilleur sur dur, puisque un contreur, il est un peu derrière sa ligne... pas en mode lim, mais voilà, contre, à l'affût de la balle courte, on va dire. Et il a besoin quand même, du coup, il aime bien courir latéralement et il a besoin de se replacer rapidement, donc d'avoir des appuis solides sur green set, par exemple, pour revenir vite dans le court et pour optimiser le replacement et pourquoi pas autre heure. Et là, je trouve qu'en fait, il glisse, donc il met moins de temps à revenir dans le court, donc il est moins efficace, je trouve, dans le contre et dans la défense. Voilà ce que je pense. En tout cas, moi, je suis meilleur sur dur. Enfin, mon déplacement et mon replacement est meilleur sur dur. Et du coup, je suis un peu plus efficace et j'embête encore un peu plus les joueurs.
Ouais, je confirme. Hein. Le contreur n'est pas un spécialiste de terre battue parce qu'il manque de rotation, de poids à sa balle. Et par contre, vu qu'il aime prendre la balle tôt, les surfaces rapides le font être un meilleur contreur. Donc, peut-être même le contreur, des fois, il lui manque le service, mais il compense par une capacité d'absorption, on va dire, des balles rapides, qui fait qu'il peut être très, très bon sur herbe, en indoor et sur dur, comme tu l'as dit. Donc, je confirme, tout ce que tu as dit, c'est ça.
C'est ça. Parce finalement, un contreur qui joue sur surface lente, on va dire sur terre battue, comme tu l'as dit, il va jouer plus de joueurs qui défendent ou qui jouent plus lentement. Et du coup, ça l'arrange pas, parce que lui, il a besoin d'exploiter la vitesse de l'adversaire pour bien jouer, en fait.
Ouais. Tu vois, Max, c'est la différence entre ce que moi j'appelle le contreur et le remiseur. Pour moi, le remiseur, c'est quelqu'un qui est capable de générer du top spin, du lift sur chaque frappe. Typiquement, l'Argentin ou l'Espagnol qui décale tout et qui te met toutes les balles sur ton revers. Ça, c'est la stratégie numéro un du remiseur. J'ai du physique, j'ai du mental, je décale en coup droit, je mets le maximum de rotation sur le revers de l'autre. Et ça, c'est pas le style de jeu de Jules. Jules, c'est ce joueur intelligent qui sait prendre sa chance au bon moment. Et qui contre et qui embête aussi parce qu'il ramène tout, super déplacement latéral. Ce n'est pas les mêmes catégories de joueurs.
Est-ce que tu as d'autres stats sur Jules que tu peux nous partager qui peuvent éventuellement le faire progresser, peut-être, je sais
Oui,
pas.
bah oui, j'avais pensé à un truc qui peut être intéressant, c'est que j'ai comparé Jules à trois grands champions qui étaient des contreurs. Donc j'ai comparé les statistiques de Jules à Michael Chang, Leighton Hewitt et Gilles Simon, qui les trois étaient catégorisés chez moi en tout cas par des contreurs. Et puis j'ai donc comparé ces stats aux siennes pour voir. Parce que tu vois, ce que j'aime bien quand on prend des top 10, c'est qu'on peut les prendre comme des role models, des modèles, et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur ressembler un peu plus, vu qu'eux, on va dire qu'ils ont optimisé au maximum ce qu'ils avaient. Ils sont arrivés comme top 10.
Bien sûr.
Donc voilà, voilà ce que j'ai pris. Et j'ai trouvé deux différences entre Jules et eux, globalement. Hein. Un, c'est le pourcentage de premier service. Sur l'étude que j'ai sur Jules, tu es à 73% de première balle dans le terrain. Eux étaient en moyenne à 55% des premières balles. Donc, Hewitt, Chang, Simon peut-être pas en fin de carrière, mais au milieu de carrière, c'est des gens qui voulaient prendre beaucoup de risques en première balle pour augmenter le ratio d'essai de service gagnant. Donc, Jules, sur l'étude que j'ai sur toi, quand ta première balle passe, 18% du temps, c'était un essai, un service gagnant, alors que eux, on va dire, Chang est à 27%, Hewitt 34% et Simon 30%. On est quasi au double d'essai de service gagnant pour 10-15% de première balle en moins.
En moins.
Ça, c'est la plus grande différence.
Ouais, bien sûr, j'en ai conscience. Alors, moi, c'est un axe de travail. J'ai quatre axes de travail depuis 2 mois et demi, on va dire. C'est effectivement taper fort en première. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Donc, effectivement, peut-être passer moins de première, mais gagner peut-être plus de points. Moins se fatiguer aussi, faire moins de rallye. Donc ça rejoint complètement.
Un rapide break pour vous dire, voilà, j'en ai plus appris aux côtés de Fab depuis qu'on fait du contenu ensemble que depuis que j'ai commencé le tennis, tout simplement. Merci à la stat. Et donc, en plus du quiz, on a aussi enregistré 4 optimisations pour progresser avec la stat. C'est 1h14 de contenu offert. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre revers. C'est le second lien dans la description. Et concrètement, sur l'axe de travail sur la première, comment tu progresses, comment tu bosses?
Ça, c'est mental. Parce que à l'entraînement, il y a encore, tu étais là, au camp Technifibre, avec les petits crocos. Là, j'ai servi, il y avait des tests là, avec kilométrage, j'ai servi à 204. Donc, ça veut dire que je suis capable de taper fort en première balle. Mais je l'utilise pas tout le temps parce que j'aime jouer, j'aime bien trouver des angles, sortir le mec, faire le contre-pied ou l'amortir dans le contre-pied. J'aime bien un peu jouer. Et moi, tout ce qui est effectivement, frappe +1 et en fait pas d'échange, j'aime pas. Il y a pas trop de jeu, en fait. Ça m'amuse pas. Et moi, j'aime bien jouer, en fait. Donc, voilà. Mais bien sûr, le tennis a évolué et il y a de plus en plus de joueurs où c'est service +1, service +2, max des fois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs où je me dis, j'ai pas transpiré, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Soit j'ai gagné 4 et 3, soit j'ai pris 3 et 3, mais bon, voilà. Et donc, ce tennis a évolué. Et donc, je vais essayer aussi d'évoluer un peu mon jeu. D'ailleurs, depuis un mois, là, je travaille à fond sur ça. Et j'ai fait les matchs par équipe. J'ai gagné de très bons joueurs. J'ai fait 4 perfs en faisant ce style de jeu-là. Il y a toujours un peu de rallye, ça, c'est évident. Mais en tapant fort en première, en agressant beaucoup en retour. Et voilà, en étant un peu plus agressif, quoi.
Mais tu arrives à pas être trop frustré, comme tu disais, comme tu aimes le jeu, de pratiquer ce nouveau style?
Écoute, avec moi, il y a toujours un peu de rallye. Hein. C'est jamais service +1, quoi. Ça n'existe pas, à moins de très bien servir, hein, vraiment. Il y a toujours un peu de rallye, mais du coup, je m'amuse à venir un peu plus au filet, avoir des volets un peu plus faciles, parce que je suis pas un joueur qui va venir au filet comme ça devoir faire une volée d'attente ou de précision et une volée de finition. C'est vraiment, je viens au filet quand je sais vraiment que le mec va ouvrir la raquette. Et que je vais avoir une volée de finition à faire directement. Mais du coup, voilà, je me surprends à venir un peu plus au filet, à peu près des fois entre 5 et 15 fois par match, des fois. Donc voilà, j'évolue. C'est plus facile en intérieur aussi. Hein. Il n'y a pas les paramètres vent, soleil. Il y a moins d'éléments difficiles. Mais voilà, j'essaie d'évoluer un peu, quoi.
Avant d'avoir la prochaine stat de femme, tu disais c'est mental. Est-ce que tu avais un blocage aussi mental d'envoyer ta première, te dire je flippe un peu, donc je fais de la première seconde?
Ouais, en fait, j'ai une seconde balle qui est pas. J'ai un peu faible au niveau puissance. Et du coup, j'ai cette crainte toujours que les joueurs vont m'attaquer. si finalement, s'il n'arrive vraiment pas souvent. Et le fait d'avoir cette crainte-là, je me dis, bon, bah, si je passe un peu plus cette première balle, j'aurai pas cette crainte-là, ils vont pas m'attaquer, ils vont pas m'agresser, je vais pas me faire breaker, etc., quoi. Donc, c'est, voilà, c'est la crainte que j'ai. Mais voilà, donc du coup, c'est que mental parce que je suis capable de servir à 205 km/h, pas en moyenne, évidemment, en pointe. Donc, je suis pas non plus un gros serveur très puissant, mais voilà, je travaille dessus mentalement pour essayer de passer un maximum de premières balles et fort.
Merci pour ta transparence.
Je veux bien rebondir par rapport, Max, je veux bien rebondir par rapport à ça, au côté mental, parce qu'on a fait toute une étude avec mon ami Lionel Grossenbacher pour expliquer qu'est-ce qui explique les moins bons serveurs sur le tour. On a fait une étude par rapport, déjà, l'efficacité au service est liée à la taille. Donc, on a pris ça en compte. Et après, on a eu un paquet des meilleurs et des moins bons serveurs. On les a comparés pour savoir qu'est-ce qui différenciait les uns des autres. Et le constat final, c'était un 50-50. 50% des moins bons serveurs peuvent être expliqués par la technique et l'autre 50% que par le mindset, donc par le mental. C'est que c'est des gens qui avaient un service complètement juste techniquement, mais qui ne veulent pas prendre des risques avec constamment. Donc, on est complètement dans ce que Jules a dit. Par contre, je rebondis aussi sur autre chose, c'est moi, les stats que j'avais de toi, sur ta deuxième balle, tu étais monstrueux. Donc, c'est-à-dire que tu gagnais. Ouais, ok, sur les stats que j'ai, 59% des points gagnés sur deuxième balle. Alors, peut-être c'est trop élevé par rapport à la réalité, mais dans ma stat, c'était élevé. Et là, en règle générale, quand j'ai des joueurs qui ont des si grands pourcentages sur deuxième balle, je leur dis, bah, t'es tellement bon sur ta deuxième balle, raison de plus pour prendre encore plus de risques sur ta première, parce que voilà, moi, j'avais 59% des points gagnés sur deuxième et sur première, 64%. Et on avait parlé avec Max que l'idéal, c'est d'avoir entre minimum 15 à 20% de différence entre les 2%. Ah, c'est ça, okay. L'optimisation. Et là, on est à 5-6. Donc, bah, une fois de plus, je n'ai pas toutes tes stats de cette année. Donc, je ne vais pas m'avancer en disant des choses. Peut-être cette année, ça a évolué. Mais en tout cas, sur ce bilan, c'est ce que j'ai.
Bon, finalement, je sers l'acier, en fait. C'est en train de me dire.
Comment?
Finalement, je sers l'acier, quoi.
Deuxième balle, t'es bon.
Oh, putain, énorme.
Ce qu'il te dit, en fait, c'est d'aller chercher encore plus en première. Ouais, voilà. Ouais.
C'est ça. Bah, c'est bien de savoir ça. Bah, super, bah, incroyable ce live-là. Magnifique.
T'avais d'autres stats sur les Chang et 8
La dernière, c'est ça. C'est la dernière. Après, j'ai terminé. Donc, après, la deuxième plus grande différence qu'il y a eu entre Jules et Chang, 8 et Simon, c'est le nombre de points gagnants, donc de winner ou de ce que j'appelle un point provoqué, c'est-à-dire que tu tapes la balle, l'autre la touche, l'autre le touche mais fait la faute. La plus grande différence entre Jules et eux, c'est qu'eux font 30% de plus de points sur leur premier coup après leur service que Jules. Donc on est vraiment sur le service plus 1. Mais l'un va avec l'autre. Si on prend plus de risques en première balle, on a un plus de cette service gagnant et plus de balles courtes à attaquer.
Bien sûr.
Donc vraiment, en changeant un truc, tu peux te rapprocher des stats de Chang, Simon et Hewitt avec un changement de mindset.
Ok. Okay.
Ah ouais, c'est ça que j'avais vu. Tout le reste était très, très semblable. Dans les plus 5.
Dans la tête.
Ouais, en tout cas,
Franchement, c'est super intéressant. Super content de vous avoir parlé, les gars. Franchement, c'est super de savoir ça. De savoir que si vraiment je me force à taper plus de premières, et ben je peux potentiellement gagner à plus de points en une frappe quoi après le service, moins m'épuiser, gagner encore plus en confiance quoi finalement au fur et à mesure des matchs quoi.
Tu bosses avec un prépa mental ou pas? Parce que là tu nous as dit 2-3 fois c'est dans la tête. Comment tu gères cette partie là?
Ouais, j'ai appelé un préparateur mental avec qui je vais continuer d'être en relation. Je vais appeler toutes les semaines, 2 semaines, voire plus fréquemment s'il le faut. Mais ouais, j'en ai parlé. Après voilà, hein, c'est bon. Tu peux parler à un préparateur mental, etc. Après, c'est toi qui es sur le terrain. Donc, après, il peut te donner des outils effectivement pour réussir et pour mieux gérer. Mais sur le terrain, c'est à toi de taffer, quoi.
Pour revenir rapidement là sur ton retour, tu as plutôt bien joué au départ. Après, tu as été blessé. On s'est croisé à Cannes. Tu m'as raconté aussi chose qui ne t'était pas arrivée en 6 ans de CNGT. Là, tu termines l'année un peu émoussé aussi physiquement. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapide de ta saison?
En fait, je quitte l'Open de Caen 2021 où je gagne, je suis en surconfiance, je gagne un gros CNGT après à Hazebrouck.
Et c'est fait, là où tu te dis, je retourne sur le circuit.
Alors, même pas, non. Je fais Bagnoles de l'Orne, je me blesse Et je m'étais pas dit, je reprends le circuit. En fait, c'est après Bagnoles de l'Orne, je pars en vacances, je parle avec un ami et en parlant avec lui et tout, c'est là où je me dis, vas-y, je reprends. Donc, en fait, je reprends à Cherbourg, au Challenger, donc après cette blessure. Et je passe les qualifs en gagnant un mec, Skatov, qui venait de passer les qualifs à l'Open d'Australie. Je mets 6-2, 6-1, je passe après contre Locke et en fait, je joue deux shapers au premier tour et je me reblesse. Alors, je gagne 6-4 au premier set. Je jouais super bien, j'étais vraiment en full confiance. Et je me reblesse et du coup, je reprends un mois et demi, je crois. J'avais déjà pris 3 semaines. Et en fait, bah, ça a cassé un peu le rythme, quoi. Hein. Ça a cassé complètement le rythme. Donc, je me suis bien soigné, je me suis remis. Et puis après, le Challenger à Cherbourg, c'était une invitation parce que je suis normand. Et après, il a fallu repartir de zéro. J'étais, je crois, 1200e. Donc, les qualifs de futur. Et donc, à Monastir, en extérieur, contre des mecs qui sont 1800, 2000, non classés, mais qui jouent bien au tennis, quoi. Ça joue entre moins 15 et moins 30 en qualif. Entre moins 4 et moins 30, on va dire. Et voilà, c'est des conditions pas forcément idéales. Donc, faut s'accrocher. Les mecs sont de mort de faim. Donc, c'est au super tie-break. Donc, tu vois, les qualifs pas évidentes. Et puis, j'ai quand même, bien sûr, pris des points. Aujourd'hui, j'ai 75 points. Je me suis qualifié 3 fois ou 4 fois en Challenger. J'ai battu, je crois, 7 top 300 sur 11. Donc, la stat est bonne. Et puis finalement en futur on joue pas des mecs 150, 180, donc en fait je peux pas montrer que je suis capable de les battre au début sur les 6 premiers mois. En fait en futur tu peux perdre des mecs 600, 500, tu peux gagner des 400, 500, mais les gens ne voient pas en fait vu que tu n'en joues pas des mecs top 200. Et en fait quand j'ai commencé à en jouer j'en ai battu et en fait l'IAS on dit oui en fait il peut gagner mais moi je le savais il peut gagner des mecs top 200 c'est juste qu'en fait je les jouais pas en fait le niveau est vraiment enfin la différence de niveau est vraiment infime entre top 200 et top 800 je trouve sur un match franchement un mec qui est 800 900 il peut jouer l'acier trempé quoi et à Bouillon Captif quand je joue à Maestrali 160 où je mets 6-1 en premier set et je gagne 6-4 troisième la semaine d'après je perds à 1000 en futur au premier tour un mec qui a pas de résultat. Et le mec jouait grave, quoi. Il est 2 mètres, il servait à 200, zéro faute, il se déplaçait bien. Je me dis, mais c'est pas possible. Et voilà. Et juste après, je rebats Tabur, 290. Voilà, en fait, année un peu mitigée parce que blessure, j'étais en full confiance, c'est dommage. J'aurais pu, je pense, avec les 3 mois et demi de blessure, être 350, arriver à l'objectif. Donc là, je suis top 500, 480. C'est pas si mal parce qu'il y avait quand même un changement de vie radical. C'était pas évident. Et donc, je suis content. Là, je vais pouvoir du coup commencer l'année 480, pouvoir être dans le tableau final des futurs directement, peut-être tête de série, faire les qualifs de challenger, potentiellement prendre plus de points. Jouer des mecs plus forts, 150, les battre, prendre de la confiance. Enfin, voilà. En fait, c'est un cercle vertueux. Mieux t'es classé, mieux c'est, finalement.
Fab, toi qui as l'habitude qui bosse essentiellement avec des top 100, qu'est-ce que Jules doit retenir pour aller chercher vraiment plus haut?
Non, mais de toute façon, comme il l'a dit, déjà maintenant, il va pouvoir commencer cette année avec un classement qui va le permettre d'aller tout de suite plus haut. Parce que quand tu commences à zéro, déjà, t'es mal, quoi. T'es mal. Tu dois refaire tous tes qualifs, ces machins. Mais après, voilà, moi, ce que je t'ai dit, c'est le service et le service puissant. Prendre plus de risques en première balle, moi, ce serait mon conseil, clairement.
Ouais. Genre, okay.
Parce que ça se déboucherait sur plein de trucs.
Parfait. Non, mais c'est top. Parfait. C'est exactement ce que je bosse. Donc, tu vois, te l'entendre dire avec les stats et tout, toi, ça, c'est la réalité des trucs. Donc, c'est cool et je vais encore plus travailler dessus, quoi.
Avant de terminer, Jules, est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait de jouer parfois en futur en Challe et d'avoir une communauté si engagée qui fait des kilomètres pour venir te voir? Première question. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, deuxième question, ma spécialité. Comme c'est très dur, tu as dit, tu as changé de style de vie, tu termines dans le dur, tu voyages, c'est compliqué, tout ça. Est-ce que tu aurais arrêté peut-être sans ta communauté, sans le soutien de ta communauté? Est-ce que tu peux nous dire les deux? N'oublie pas la première.
Alors non, c'est top. Franchement, ouais, en France, en tout cas, il y a des gens qui font 2 heures à 3 heures de route pour venir voir mon match. Des fois, je me rappelle à plaisir, il y a un mec qui avait fait 2 heures de route et le match était déjà fini. Il n'a pas pu me voir, le pauvre. Mais c'est fou, hein, c'est fou. Dès que je vais en France, j'ai au minimum entre 10 et 30 personnes qui viennent juste pour me voir. Donc ça, c'est top. Ça, c'est extra. C'est un vrai kiff, en vrai. Tu te sens pas tout seul.
Ça fait une diff sur certains matchs?
Ouais, ça m'aide, ouais. Parce que j'entends les breakers, les Jules et tout, je sais que c'est eux, enfin, c'est top, ouais, franchement, ouais. Et puis, deuxième question. Alors, deuxième question, en fait, c'est simple, hein. Si j'avais pas eu cette chaîne YouTube, si j'avais pas eu cette communauté vraiment avec un taux d'engagement assez incroyable, j'aurais pas repris, en fait, hein. Moi, j'ai juste repris vraiment parce que je voulais documenter, montrer, voilà. Mais moi, j'avais gagné l'Open de Caen, j'avais fait bagnole, j'avais pas décidé de reprendre, hein. Vraiment, parce qu'on m'a poussé, on m'a poussé, on m'a un peu ouvert les yeux bah, sur l'engouement que la chaîne avait et puis sur la possibilité qu'il y aurait au fur et à mesure des mois avec la reprise de l'ATP. Et bon, finalement, le fait de m'avoir poussé, je me suis aussi dit, bon, bah, c'est pas fini, j'ai 30 ans, genre, j'avais 31 ans quand j'ai repris, j'ai 31 ans, je viens de battre 4 mecs incroyables. J'ai encore le niveau peut-être pour, enfin sûrement pour faire les qualifs de Grand Chelem. Et donc, l'enjeu sportif était quand même bien mieux que de faire les CNGT que j'avais gagné 5 fois. Et voilà, il n'y avait plus vraiment d'enjeu sportif. Et donc là, voilà. Mais bon, c'était effectivement, faut reprendre l'entraînement intensif tous les jours. Voilà, c'est pas évident quand depuis 6 ans, bah, tu n'entraînes pas finalement, quoi.
Ouais, tu m'as dit à Cannes, j'ai pas fait d'entraînement physique depuis X années parce que tu matchais tout le temps. Donc,
C'est ça,
ouais,
je faisais
ça.
100, je faisais 120 matchs par an, tu vois. Donc, un match tous les 3 jours, bah, ça te garde physiquement pas mal, quoi. Mais sauf que, voilà, je faisais plus de footing, plus de gainage, je m'entraînais même plus, en fait. Je jouais tous les week-ends, 3-4 matchs par week-end. Donc, puis j'entraînais, je faisais d'autres trucs, hein. Donc, voilà. Donc là, il a
Et...
fallu reprendre vraiment le mode de vie de 2010-2015, quand j'avais 20 ans. Et voilà. Et en vrai, je kiffe, hein. C'est super.
Et là, tu as dû reprendre le mode de vie parce que les mecs sont beaucoup trop forts physiquement ou parce que tu matches moins, donc physiquement, tu as besoin de
Parce
compenser?
que, bah parce que je me suis blessé. Donc, il a fallu reprendre des bases, mobilité, échauffement, des trucs un peu relous que tu fais tous les matins, mais obligatoires. Et puis, bah, musculairement, hein, que ce soit pareil à droite du corps, à gauche du corps, tu vois, c'était un peu, il y avait un peu trop de différence. Et puis, bah, se réentraîner simplement, enfin, classique. Hein.
Bon, merci les gars pour l'échange.
Merci beaucoup. Hein.
Merci à toi, Max.
Bon
Merci,
début de
c'était top.
saison, Jules, et puis on est en contact, hein. Vamos.
Merci. Allez, ça roule. Bon courage à toi aussi. Salut Fab, merci beaucoup. Hein.
Ciao, ciao, merci à vous.
Salut.
À très vite, les gars. Ciao, ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté ce contenu avec Jules. Mettez-nous un like s'il vous a plu et participez au quiz. Vous allez kiffer, surtout en apprendre un wagon sur votre propre style de jeu. Récupérez au passage les 4 clés stats pour comprendre l'importance du service dans votre jeu. Comment mieux retourner en fonction de votre style de jeu. Exploiter le schéma service plus 1 et enfin, optimiser la fonction de votre revers, c'est le second lien dans la description. Et surtout, partagez cet épisode autour de vous, ça nous aide comme jamais. Merci beaucoup et à très vite. Ciao!